Oui, je suis bien là ici en tant que professeur de Nanterre depuis quelques mois, mais est-ce que ça a suffi de faire de moi un expert de Delta? C'est pas tout à fait certain. Vous allez très vite en juger. J'ai un sujet qui croise un auteur, vous serez pas étonné de savoir que c'est Delta, et un courant de pensée qui est dénommé École critique. Ou des courants de pensée qui sont dénommés École critique du droit. J'en ai pas parlé avec Jeremy Bentham lui-même. J'aurais aimé, mais j'ai pas pu aller à Londres. En revanche, j'ai pu en parler avec plusieurs membres des courants critiques du droit qui, la plupart d'entre eux, sont encore vivants. Et donc j'en ai parlé à Karl Clair, à Joseph Singer, à Antoine Damour, j'ai pu croiser ici et là. Et à chaque fois, la réaction était très claire. Ouvrir les yeux de façon tout à fait écarquillée pour se demander de quel type de sujet pouvait bien s'agir. Ça a fini en discussion dans un train avec une collègue qui m'a dit c'est quoi ce sujet? C'est un bizutage. En me regardant avec inquiétude, comme si j'allais souffrir de quelque chose d'inhabituel, hein, dans les facultés de droit, quelque chose très, une espèce de méchanceté. Alors, effectivement, le sujet pose un problème. Ce problème, c'est que les écoles critiques du droit n'ont qu'une ignorance, au mieux, de Bentham, ou parfois à certains dédains. Et en tout cas, il n'y a strictement aucun lien de filiation. Si les écoles critiques du droit ont un lien de filiation, c'est avec le marxisme. Alors bien sûr, c'est plus compliqué, certaines personnes se reconnaissent dans les écoles critiques, ne sont pas marxistes, tu sais, c'est courant de pensée, donc il y a beaucoup de contradictions, des choses comme ça. Mais quand même, entre nous, ne répétez pas, au départ, en tout cas, c'est marxiste, hein, quelles que soient d'ailleurs les branches, hein, des écoles critiques du droit. Et alors, quand on voit la position de Karl Marx sur Bentham, on comprend très vite pourquoi une opposition des courants est nette. Vous avez une petite citation de Karl Marx, Capital, Le Capital, tome 1, section 7, note 79, alors, quelques petits morceaux. Bentham, cet oracle insipide, pédant, verbeux, de l'intelligence bourgeoise ordinaire du 19e siècle, la plus plate naïveté, prend pour l'homme normal le boutiquier moderne, spécialement le boutiquier anglais, le lieu commun, il ne s'y plaît pas, il s'y bavarde. Alors, on remarquera tout de suite la proximité de Karl Marx et de Jeremy Bentham quant à la façon de s'exprimer. Déjà, un point commun intéressant, c'est un style qu'on dirait un peu polémique, peut-être, hein, que Jeremy Bentham, comme vous savez, affectait, utilisait souvent. Donc, on pourrait essayer de s'amuser à écrire une réponse de Jeremy Bentham dans le même ton, qui aurait fini par se casser la figure, très probablement. Dès lors, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas de lien direct de filiation, hein, si ce n'est dans le style. Face à cette difficulté-là, j'aurais pu traiter mon sujet de la façon suivante, faire le jeu des 57 principales grandes différences entre Jeremy Bentham, d'une part, et les courants critiques du droit, d'autre part, ce qui aurait été intéressant, mais finalement, moyennement intéressant. Ce qui est plus amusant, bien sûr, quand on a des adversaires comme ça, c'est de regarder les points communs. Bien sûr. Donc, on va partir, évidemment, des points communs que ces écoles de pensée ont. Il y en a deux qui peuvent servir de point de départ. Le premier, c'est qu'il s'agit de deux pensées assez radicales sur le droit. Disons qu'ils ont en commun d'être des incroyants du droit. Ils ne croient pas aux vertus heuristiques de la logique juridique traditionnelle. Il ne croit pas, si vous voulez, à la découverte d'un sens vrai à travers une réflexion sur la cohérence du droit existant ou d'une recherche de l'intelligence des propositions. Il ne croit pas que le droit s'exprime à travers cette intelligence intemporelle, romaine, ou que sais-je encore. Il ne croit absolument pas à l'existence d'un droit éternel qui s'exprime soit dans les droits de l'homme, soit à travers le droit des obligations si fin que nous ont légué les siècles. Il ne croit pas du tout à tout ça. Ni les uns, ni l'autre. C'est pas pour rien qu'on a parlé, pour les uns comme pour les autres, de tentatives de démystification. Pour Bentham, c'est Hart hein, qui a fait un article assez fameux sur cette démystification qui est derrière les pensées critiques. Et dans ce même article, d'ailleurs, il compare avec Karl Marx, qui lui aussi a cet objet de démystification. Alors évidemment, il ne démystifie pas de la même manière, il ne dévoile pas de la même manière. On a quelquefois des jeux de miroir qui peuvent prêter à sourire. Guillaume nous a parlé de la conception de la règle de droit qu'on trouve chez Bentham et avec cette vision impérativiste et elle est exprimée au travers du dévoilement. Il dit attention, dans les textes on trouve toutes sortes de choses, on voit des règles qui nomment, valident, expliquent, instituent, mais tout ça c'est du vent, tout ça c'est du voile. Il faut aller sous les choses, il faut aller vers les réalités. Et quand on creuse, quand on va à la profondeur du droit, alors là on s'aperçoit qu'en réalité le droit c'est le commandement, c'est l'interdiction, c'est l'autorisation, c'est ça qui est dessous, sous ces énoncés qui sont un peu pitons, dessous il y a ça. Et un peu plus tard on a Antoine Jamot qui est un des auteurs vraiment du mouvement critique français qui va dire tous ces théoriciens, tous ces juristes sont là en train de dire que le droit ordonne, interdit, autorise, que ce sont des modèles de comportement impératifs. Et voilà ce que disent tous les juristes. Mais non, il faut dévoiler la vérité. Il faut creuser, il faut démystifier tout ça. Il faut regarder en profondeur les énoncés normatifs. Quand on regarde en profondeur, on s'aperçoit qu'en réalité, le droit institue, nomme, valide, explique. Il faut sortir de ces apparences de commandement. Donc, vous voyez, des positions radicalement opposées, mais une même méthode, toujours dévoilée. Premier point commun, c'est volonté de ne pas se rester à la surface méprisée, finalement, des choses du droit classique. Puis un deuxième point commun, ce ne sont pas ni les uns ni les autres ne sont politiquement neutres. Les écoles critiques du droit s'affirment très clairement dans leur filiation idéologique. Ce sont des gens qui sont à gauche, qui sont plutôt socialistes, qui sont marqués politiquement et qui ne s'en cachent absolument pas. Et évidemment, Jeremy Bentham non plus, il ne s'en cache pas du tout. Et lui aussi, si on regarde en son temps, il s'agit clairement aussi d'un penseur qui peut se réaliser comme de gauche. Alors évidemment, il y a certaines positions de Bentham qui aujourd'hui apparaissent pas vraiment gauchistes, quand il défend l'usure, par exemple, un gauchisme très modéré, en tout cas. Mais si on le resitue dans son contexte historique, bien sûr, il est démocrate, il s'oppose à la peine de mort, il est pour la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui à l'époque est beaucoup, puisque à l'époque, vous savez, est tendu en cas d'homosexualité. Donc c'est même qu'il y a des risques d'écrire des choses pareilles. Il appartient finalement, lui aussi, à une certaine gauche radicale dans son époque. Donc voilà un deuxième point commun, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord politiquement, pas du tout, mais qu'ils sont les uns et les autres engagés politiquement, mais on va le voir de façon assez substantiellement différente, et ça c'est peut-être un deuxième point d'intérêt. Donc dans un premier temps, si vous voulez, je vais regarder un peu, comparer un petit peu leur théorie du droit, cette façon qu'ils ont d'essayer de dévoiler la réalité profonde des choses, de façon différente, mais qui se retrouve, vous avez dans certains cas. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de vous parler de ces rapports entre le droit doit l'écarter de notre métier? Est-ce qu'on doit le faire dans notre métier, le faire ouvertement, de manière masquée? Là, je pense qu'en étudiant ces deux façons de penser, quelques enseignements dont j'ai moins tiré. Lorsque le dévoilement, la démystification, j'ai essayé d'être relativement rapide, puisque ce sont des choses dont on parle et dont on a déjà parlé, dont on reparlera. Chez Bentham, c'est essentiellement la théorie des fictions, hein, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est bien résumée dans l'ouvrage de Guillaume Tussaud, sur le roi. Vous savez, les fictions, je vous en dis juste deux mots. Là, je suis dans Overflow in General, comme tout le monde. Mais, bien sûr, en fait, je vais être un juriste, difficile d'échapper. Et alors, les fictions, c'est Power, Right, Property, Security, Liberty, Obligation, Duty, Burden. Il y a des fictions. C'est une fois que vous avez mis le pouvoir, le droit, la propriété, la sécurité, la liberté, les obligations, les devoirs, bref, tous les mots du droit sont des fictions, quoi. Hein. Enfin, tous les grands mots du droit, finalement, sont des fictions. Les énoncés normatifs traditionnels sont de l'ordre de la fiction. Il va falloir aller rechercher la réalité. Et la réalité n'est pas dans ces énoncés-là. Elle est, je vous le fais en rapide, elle est dans les... Elle est dans les émotions de plaisir, les émotions de déplaisir ressenties par les personnes, dans ce bonheur, et c'est à ce niveau-là qu'on a la première couche de réalité dont on va pouvoir ensuite nourrir éventuellement certains concepts plus généraux, certains concepts fictifs pour leur donner du sens. Et pour ça, il faut faire un retour à la réalité. La réalité, finalement, c'est toujours à la fin une sensation de l'être humain, une sensation plus ou moins agréable. Je simplifie outrageusement, hein, bien sûr, vous savez, dans le temps qui nous est imparti. Pour les écoles critiques du droit, il y a des variations assez nettes, hein, entre différents courants de ce point de vue-là. Je vais plutôt vous parler d'un de ces courants, donc les Critical Legal Studies, hein, les CLS, donc les États-Unis. Et en l'occurrence, je pense surtout à un article de Duncan Kennedy sur la façon dont il faut effectivement aller vers les réalités. Donc il va s'opposer dans cet article à Hart et Kelsen. Il va s'y opposer de la manière suivante, en disant, chez Hart comme chez Kelsen, il y a des points communs, hein, bien sûr, mais chez ces deux auteurs, il y a une espèce de croyance en l'existence de sens. De sens qu'on pourrait dire exact dans certains énoncés normatifs, évidemment, pas tout, et puis de sens qui n'est pas complet, donc on fait quand même du sens, et il y a de temps en temps des cas qui sont relativement faciles à traiter, puis en revanche, il y a des cas qui sont plus difficiles, dans lesquels on va être obligé de chercher en dehors de la sphère proprement juridique des solutions. Mais il y a quand même un sens proprement juridique, et un certain nombre de concepts qui peuvent dicter des solutions. Alors, Duncan Kennedy dit oui, mais attention, pour classer en cas difficile et en cas facile, comment faire? Il dit ce classement, c'est un classement qui en réalité ne découle nullement du caractère plus ou moins clair des énoncés juridiques, pas du tout. C'est un classement, le simple et complexe, qui est fait selon des bases idéologiques, selon des présupposés sociaux, politiques. Et finalement, si le clair est défini sur des présupposés idéologicaux, etc., il n'y a plus de clarté du tout. Il y a une espèce d'indétermination généralisée qui n'est pas sans rappeler une certaine forme de pensée réaliste du droit et qu'on retrouve, comme par hasard, aux États-Unis, y compris dans les mouvements critiques du droit. Et dès lors, et c'est vrai qu'on a une différence assez notable par rapport à certaines tendances réalistes. Dès lors, il va falloir aller au-delà de la signification des énoncés normatifs, qui n'existe guère, et pour aller au-delà de cette signification, eh bien, on va rechercher, alors, dans la théorie marxiste, on va rechercher la position de classe, les rapports de production, qui sont le vrai sens des règles de droit. Attention, il s'agit d'aucun courant critique du droit ne va reprendre cette position-là, hein, cette position selon laquelle le droit ne serait qu'une superstructure, etc. Les courants critiques du droit sont des courants qui sont faits par des juristes, paraître aussi instituant du rapport de production. Lorsque le droit forge le concept de propriété, lorsque le droit forge le contrat, il est aussi créateur des rapports de production, largement autant qu'il est le sujet, hein, l'effet de ces rapports de production. Mais ce que je veux dire là, c'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que pour trouver cette réalité, on n'aura pas simplement un économisme, comme chez Marx. Pour trouver la réalité, il va falloir quand même aller en dehors du droit, pas forcément en sciences économiques, il va falloir y aller en allant chercher la position sociale des personnes qui écoutent le droit, leur position politique, leur position idéologique. Bon, c'est bien sûr l'individu situé, mais c'est aussi l'individu plein de présupposés moraux qui est celui qui décide, in fine, du sens de la loi, du sens du droit, mais en réalité, il n'exprime pas le sens du droit, il exprime très largement ses convictions. Ces convictions qui sont ici perçues comme un univers relativement irrationnel. Lorsqu'on est dans le courant critique du droit, si vous parlez d'idéologie, si vous parlez de valeur, si vous parlez de choses comme ça, vous parlez de sentiments, de sensations. Donc quand on creuse les réalités dans le courant critique du droit, vous voyez, on a les énoncés un peu abstraits, puis pour regarder ce qui va déterminer concrètement les choses, eh bien on regarde des positions idéologiques, donc des sentiments, tiens, comme chez Bentham. Bon, c'est finalement, on va revenir au niveau de la sensation. Alors, il y a une différence considérable, évidemment, parce que pour Bentham, la sensation qui est le vrai, c'est la base sur laquelle on va pouvoir construire un calcul, c'est la base sur laquelle on va pouvoir construire une science. Alors qu'on est courant critique du droit, c'est tout à fait l'inverse. La sensation dont il s'agit, ça veut dire qu'on retombe dans les goûts et les couleurs, et on retombe dans l'indicible et l'absence de scientificité, on retombe dans une espèce d'arbitraire. Il n'empêche qu'il y a cette commune volonté d'aller vers le réel, et que le réel, finalement, est proche des sens. Ça, c'est, j'ai trouvé ça assez curieux. Et de ce point commun-là, découlent des positions communes, difficilement compréhensibles sans ça. Bon, je ne vais pas vous en reparler en détail, notamment le rejet des droits de l'homme. Il y a une vraie critique des droits de l'homme, à la fois chez Bentham, on en reparlera, et une critique des droits de l'homme qui est aussi présente dans le mouvement critique. Dans le mouvement critique du droit, alors c'est pas seulement par filiation marxiste, c'est aussi par position théorique de rejet des énoncés abstraits, des énoncés généraux, dépourvus de signification. On retrouve cette critique des droits de l'homme dans le mouvement critique. Donc, vous avez trouvé des citations, je ne vais pas vous les dire parce que le temps passe, mais je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Jean-Pierre Clairaut, ici présent, et de Bernard Binage, qui Bentham contre les droits de l'homme, qui publie les textes fondamentaux de Bentham contre les droits de l'homme, qui livre une analyse derrière. Ce qui est frappant, vous voyez, dans cette espèce de position théorique qui débouche finalement sur des positions de rejet d'un certain type d'énoncés normatifs des droits de l'homme, ce qui est frappant, c'est ce commun désenchantement pour comprendre l'énoncé normatif. Il faut lui enlever une espèce de couche de blabla trompeur et aller au-delà de ça. Et en enlevant cette couche de blabla trompeur, on enlève aussi toutes les valeurs, toutes les grandes idées. Alors, il faut enlever tout ça. Et après, on va aller regarder et trouver des choses qui sont plus vraies. Alors, ce point commun, finalement, vous voyez, débouche sur une séduction relativement faible pour quelqu'un comme moi. Je suis assez peu séduit par ça. Pourquoi ? Je crois que les droits de l'homme ont du sens. Alors, pas un sens, on sait que sont tirés à une matière de toutes les directions, on sait qu'on préfère n'importe quoi, et souvent le contraire. Et ça ne veut pas dire que, parce qu'on en fait n'importe quoi, que le n'importe quoi est leur signification, mais que le n'importe quoi est ce que l'on essaie de nous faire passer comme signification. Non, je pense qu'il y a pas un sens, mais qu'il y a quand même du sens, je ne crois pas, une espèce d'humanisme individualiste qui n'est pas n'importe quel. même quelque chose qui peut donner du sens à beaucoup d'énoncés normatifs. D'ailleurs, on arrive à ce niveau-là au niveau militant, en quelque sorte, puisque vous apercevrez que le militantisme, c'est beaucoup aider les droits de l'homme, que ce soit le droit au logement, que ce soit le droit à ceci, que ce soit l'égalité, et particulièrement aux États-Unis, la lutte contre la discrimination raciste, la lutte contre ceci. L'activisme ne s'est pas fait contre les droits de l'homme, l'activisme s'est fait avec les droits de l'homme. Et de ce point de vue-là, on s'aperçoit qu'on est dans deux mouvements qui sont idéologiquement marqués, qui sont engagés, mais qui s'opposent aux droits de l'homme aussi pour des raisons théoriques, mais qui s'opposent aux droits de l'homme et qui, de ce fait-là, se coupent finalement de ce qui était une part importante du mouvement politique de leur époque, Bentham, la Révolution française, le mouvement critique du droit, qui va se couper de nombreux mouvements revendicatifs de gauche qui sont basés effectivement sur cette revendication des droits de l'homme. Alors, ça débouche en un mot sur une question difficile qui est notre position. Je suis juriste. Alors, quelle est notre position par rapport à l'action, par rapport au militantisme? Ce qui est intéressant, vous avez bien fait de ne pas vous mettre au premier rang. Il y a une opposition de ces deux Bentham et les courants critiques. Bentham est résolument constructif. Bentham propose continuellement, il adresse des lettres aux gouvernants, il faut faire ceci, il faut faire cela, je vous propose ceci, je vous propose cela. C'est un réformiste qui continuellement souhaite des modifications précises et qui ne cesse de dire et de préciser. Le mouvement critique du droit n'est pas sans lien avec des propositions, n'est pas sans lien avec un certain militantisme, et les auteurs du mouvement critique du droit sont souvent aussi des auteurs d'articles qui prennent position dans un sens, dans l'autre, qui vont avoir un rôle malgré tout dans la lutte contre le sexisme, dans la lutte contre ceci, et certains militants passent par le mouvement critique du droit. Mais le mouvement critique du droit, les mouvements critiques du droit ont ça en commun, que ce n'est pas leur objet principal, c'est presque incidemment qui vont avoir une influence sociale voulue. Leur idée principale, c'est plutôt d'analyser le droit, d'en livrer la critique, de montrer ses sous-bassements, mais ce n'est pas particulièrement d'influer pour obtenir des règles nouvelles. Alors, cette différence de position, alors je vous renvoie juste pour voir cet aspect des mouvements critiques, il y a un excellent article de Michael Fisher, qui est quelqu'un de très sympathique, qui est assez marrant par ailleurs, qui s'intitule « The question that killed the critical legal studies », la question qui a tué les critical legal studies. Et c'est quoi cette question? Cette question, c'est « What would you do ?» Okay. Bon, d'accord, tout ça, c'est très vilain. Là, qu'est-ce que tu ferais, toi? Et là, ah, les critical legal studies sont morts. Alors, non, je ne voudrais pas un peu répondre, c'est un peu... Mais il y a quand même un fond de vérité dans cette histoire-là. Alors, pourquoi cette opposition-là? Il y a d'un côté un véritable plus militant, finalement, et des critical legal studies plus radicales dans leur position politique, mais beaucoup plus militants, finalement, beaucoup plus théoriques. Pourquoi ça? Alors, en fait, je pense que c'est pour des raisons politiques. Vous savez, un des grands mots auxquels on résume de façon tout à fait abusive, voire un peu ridicule, le mouvement critique du droit, c'est de dire que pour les mouvements critiques du droit, le droit est politique. Et bien sûr, ça simplifie, etc. Mais il y a quelque chose dedans. Et je voudrais juste rappeler que le droit est politique, certes, mais la théorie du droit aussi. Hein. Attention. Et là, on le voit bien. La position du mouvement critique du droit, cette position critique, c'est le système n'est pas amendable, au fond. Le système n'est pas amendable. c'est un système capitaliste, oppressif, immonde, qu'il faut dépasser pour construire un nouveau monde, et ce monde nouveau, parfois il ne nous appartient pas de l'écrire en détail, nous sommes là pour renverser l'ancien monde, qui sont finalement sur une perspective qui est plutôt éthique révolutionnaire. Contrairement à Bentham, qui lui est là pour réformer. Alors bien sûr, il critique beaucoup le monde actuel, mais quand même, il pense qu'on peut l'améliorer, et voilà, et je propose aussi, et il faudrait changer le petit truc là, il faudrait changer le gros truc là. Et donc on a finalement peut-être une position très traditionnelle entre les révolutionnaires et les réformistes, qui finit par dépeindre sur leur conception de la théorie du droit. Alors en conclusion, et en quelques mots, je pense qu'il faut essayer de tirer quelques leçons. Alors, d'abord on peut tirer des leçons, à mon avis, en prenant un petit peu au Critical Legal Studies et au mouvement critique du droit qui existe aussi en France, et je connais un petit peu moins bien les hispaniques, qui sont très riches. Et puis on peut prendre un petit peu aussi avec. Je pense que ce qui, pour moi, hein, c'est très subjectif, vous pouvez pas être d'accord, vous ne serez pas d'accord. Ce que je retiens de chez Bentham de plus intéressant, de plus positif, c'est son constructivisme, sa volonté d'user de son art de juriste pour trancher et donc proposer des solutions, comme fait un juge. Finalement, un juge, on lui pose un problème, il faut donner une solution. Il dit, ben, finalement, c'est ça, le juriste en général, on doit finalement participer à cette recherche de normes, à cette recherche de contenu. Je crois que ça fait partie de notre métier, que cette recherche de solutions, que ce serait avoir une vision bien réduite de notre métier, que de dire non, on se met en dehors du jeu. Donc là, je suis séduit par Bentham. Mais sur les mouvements critiques du droit, je crois qu'il faut, retenir la plus grande richesse des outils utilisés. Donc, le plus grand bonheur, son calcul, si on y croit trop, on va finir comme les Chicago Boys. Hein. Et ça, on va finir par mesurer tout en termes économiques, et puis voilà, un plaisir de 27 qui est supérieur à un plaisir de 24, et donc ce sont des utilités économiques qui doivent dicter le contenu du droit. Il y a quelque chose de réducteur. Je pense qu'il faut effectivement que toute la richesse des sciences, et aussi des sciences sociales, pas seulement économiques, mais la linguistique, la sociologie, la psychologie, tous ces éléments-là, qui sont explicatifs des solutions dans le mouvement critique du droit, et bien tous ces éléments-là sont effectivement explicatifs, et dans une recherche de solutions créatives, dans une recherche de construction de solutions, je pense qu'il faut effectivement faire feu de tout bois, récupérer tous les enseignements de ces différentes sciences sociales pour essayer de trouver des solutions, bien sûr, et aussi refuser le déterminisme comme le font les mouvements critiques du droit, je ne crois pas qu'on croit quelqu'un, comme le fait aussi Bentham d'ailleurs, puisqu'il est volontariste, refuser le déterminisme, assumer la part d'idéologie, finalement, et l'afficher clairement, sans difficulté, que finalement, bien sûr, la solution est prédéterminée par un certain nombre de remarques objectives, mais peut-être aussi prédéterminée par des pensées. On se dit, tiens, on prend un petit peu aux uns, un petit peu l'autre. Je pense que les leçons principales sont peut-être à tirer aussi en s'opposant aux uns et aux autres. S'opposer à la critique du langage un peu excessive des uns et des autres, parce que accepter de construire aujourd'hui, c'est aussi accepter de dire, et donc dire sans langage, on a beaucoup de mal. Accepter l'imperfection du langage, qui est la seule dans laquelle on peut se fondre pour arriver à des solutions imparfaites. C'est un outil imparfait, mais ça tombe bien, puisque de toute façon, on va vers l'imperfection à la fin aussi. Et avec les outils parfaits, on n'arrive pas à grand-chose pour faire de l'imparfait. Et en un dernier mot, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, le dernier mot. Voilà, si c'est un dernier mot, il faut se méfier. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie dans une perspective constructiviste de la recherche d'un point de départ. Et donc on ne peut pas faire l'économie de dire un mot de cette idée-là, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. C'est très attirant, plus grand bonheur, plus grande jouissance, plus grand plaisir. J'y suis favorable. danger évident, la béatitude des membres de secte. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ils sourient, ils sont heureux, mais d'où vient cet immense bonheur? Eh bien, c'est que perpétuellement et à chaque instant de leur vie, ils font leur devoir et c'est bon de faire son devoir. Ils jouissent de cette obéissance perpétuelle et à chaque fois, ils font leur devoir. Et donc, ils sont contents, ils font leur devoir, ils se sont bien soumis, ils en retirent une immense jouissance. Alors, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, peut-être une augmentation des sectes, peut-être. Ou alors, à un niveau plus modeste, vous savez, quand vous mangez un yaourt, c'est un plaisir, mais relativement modéré, avec une bonne publicité. Matraqué partout, en mangeant un yaourt, vous allez pouvoir avoir la sensation d'une vie familiale complète, d'un lien avec la nature, d'une communion avec la... grâce à un bon matraquage publicitaire. Et quand vous allez manger votre yaourt, ça va être génial. De communier avec la nature dans une ambiance familiale et heureuse. Donc, pour augmenter le plaisir, un bon matériel publicitaire, je crois que ça s'impose. Plus généralement, dans ces recherches-là, il y a le vrai problème aussi du plaisir qui est assez incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer. Hein. Ça casse la possibilité du calcul. Et de toute façon, ce calcul-là, peut-être qu'il faut s'en méfier terriblement, il porte en germe un certain autoritarisme. Je vous le dis juste en un mot, je ne crois pas que j'apprécie tellement lorsqu'on essaye de mesurer mes plaisirs. Et la puissance publique, le souverain, qui dit « Je vais mesurer vos plaisirs, monsieur Bocquet. » Alors, si on doit trouver une base, je pense qu'il y a une autre base qui est plus conforme à l'idée de liberté, d'égalité, d'humanisme. Finalement, c'est la base que je préfère moi. C'est la recherche d'une réduction maximale des dominations et du pouvoir. Alors, ce n'est pas tout à fait sans lien. Parce que la liberté, c'est quand même une jouissance très intense. Que effectivement, les réformes en cours essayent de nous enlever. Alors là, j'ai bien retenu, je suis bien d'accord. Mais une jouissance vraiment. Mais c'est pas tout à fait pareil, quand même, que de maximiser l'autonomie, la liberté, ce type de jouissance, plutôt que de rechercher, en général, le bonheur qui, à mon avis, est là, producteur de danger.